France, une femme meurt sous les coups de son compagnon tous les 3 jours. C'est un chiffre qu'on ne peut plus ignorer. Mais peu d'entre nous savent que ces femmes vivent avant de succomber. Humiliées, terrorisées, traquées par des conjoints violents, même après une séparation, certaines de ces femmes doivent continuer à vivre cachées, comme si elles étaient en cavale pour échapper à leur bourreau. Quand elles arrivent à les repérer, la justice et la police les appellent des femmes en très grand danger. Comment ont-elles tenu face aux coups, parfois pendant des années ? À quoi ressemble leur vie à l'écart du monde en sursis ? Comment la société les protège-t-elle ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Samia. Sa vie a basculé le jour où elle a décidé de porter plainte contre l'homme qui lui faisait vivre l'enfer. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Soyez les bienvenus.
Battue pendant plus de 5 ans, Samia a vu les violences redoubler lorsqu'elle a annoncé à son compagnon qu'elle avait l'intention de le quitter. Jusqu'au soir, où ivre de rage, il l'a battue sauvagement, puis l'a violée pour se venger.
Pour moi, cette nuit-là, je l'ai ressentie dans le sens où... c'était du style, ok, tu veux partir, mais tu vas récolter ça avant.
Tu vas
après,
payer.
Tu pourras partir. Ouais, c'était ça.
Tu
en
vas
gros,
payer.
C'était ça.
C'était
ouais.
Ça. Donc cet homme vous a violé à 2 reprises.
Mmh.
Est-ce que vous aviez conscience, Samia, que cet homme vous violait ?
Non, pas du tout. Non. Non, non. Enfin, pour moi, c'était le père de ma fille. C'est la personne avec qui j'ai vécu. Enfin... Mmh. J'ai rencontré des filles qui me disaient « Oui, mais c'est ton mari, donc il te viole pas. S'il faut écarter, donc il faut écarter. Donc toi, t'as juste à fermer la bouche, quoi.
Mm-hmm. »
Eh ben non, je suis désolée, donc ça se passe pas comme ça.
Donc, en fait, à la fin de cette nuit-là, comment ça s'est passé ? Lui est parti ou vous avez fini par pouvoir partir à un
levée,
moment
Je me suis levée dans le contexte d'aller... Enfin, pour moi, il fallait que j'aille travailler. J'avais pas pris conscience de mon état, déjà.
Mmh.
En même temps, je voulais aller porter plainte. Puisque, à la fin, il m'a sorti une phrase un peu ironiquement. Il m'a dit, bon, surtout, hein, n'oublie pas d'aller porter plainte. Hein. Mais moi, dans ma tête, c'est, t'inquiète pas, je vais le faire.
Donc, mais il vous défiait, à ce moment-là ? Vous pensez que
il était tellement sûr de lui que j'allais pas le faire. Puisque je me suis tellement mangé des coups pendant ces années que pour lui, je n'allais pas faire la démarche. Donc moi, j'arrive à la gare et puis je regarde l'heure et je me dis, mince, j'aurai pas le temps d'aller porter plainte. J'ai une boutique à aller ouvrir, je pourrais pas y aller. Et puis en même temps, je vois des policiers. Ah, je me dis là, franchement, il faut que je saisisse l'occasion d'aller les voir parce que sinon, c'est foutu pour moi. Peut-être que demain, je vais mourir ou ce soir, je vais mourir, mais il faut que ça s'arrête. Et donc, je suis allée les voir et je leur ai posé une question. Comment fallait faire pour porter plainte ? Sauf que moi, je savais pertinemment comment fallait porter plainte. Sauf que à ce moment-là, j'avais pas la force. Et tout ce que je voulais, en fait, c'est qu'on me retienne et qu'on me transmette un peu de force pour justement faire cette démarche.
Qu'on s'occupe de vous, non ?
Aussi, oui, quelque part. Je pose la question au policier. Il me dit, bon, voilà, il faut aller au commissariat, etc. Puis au moment de partir, il me dit, mais vous allez où, là ? Je dis, je vais ouvrir ma boutique. Il m'attrape par le bras, il me dit, mais vous allez nulle part, là. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui, et ça va s'arrêter aujourd'hui. Vous pouvez pas aller travailler. Il me dit, on s'en fout du magasin, à la rigueur. Appelez votre patron. Enfin, voilà, il m'a passé son portable. J'ai appelé mon patron, j'ai appelé ma vendeuse pour qu'elle aille ouvrir le magasin. Enfin, voilà, ils ont été réactifs. Sa collègue m'a aidée à marcher parce que j'avais très mal à la jambe. Enfin, voilà, ils m'ont pris en charge de A à Z. Donc, ils ont appelé le commissariat pour qu'il aille l'arrêter.
Vous étiez marquée ?
Pour moi, j'étais marquée. J'avais le visage tumifié, puis j'étais pas bien.
Ouais.
J'étais vraiment pas bien, j'étais choquée. Et puis, j'étais toute tremblante, j'avais peur. J'étais dans un sale état, en fait.
Bien sûr.
Voilà, j'étais dans un sale état. Et puis, bon, ils voulaient pas me laisser dans cet état. Donc, ils m'ont ramenée à l'hôpital. J'ai fait les constatations, ils sont venus me chercher à l'hôpital, ils m'ont ramenée au commissariat, j'ai pu faire ma plainte. Et au dépôt de ma plainte, en fait, j'ai voulu retirer ma plainte. Sauf que là, la policière, elle a refusé d'enlever cette plainte. Elle m'a dit, je refuse, vous allez la maintenir, cette plainte-là. Elle me dit, vous savez pourquoi ? Je dis, non, parce qu'on n'a pas envie de vous retrouver morte dans une dizaine de jours. Donc ça va, vous allez garder votre plainte et vous allez aller jusqu'au bout. Enfin voilà, elles m'ont donné un peu de force que je n'avais pas. Et puis elles m'ont dit...
Justement, mais si elles n'avaient pas eu cette attitude, ces policières, vous pensez réellement que vous auriez enlevé votre plainte, là?
Je pense que j'aurais enlevé ma plainte, oui. Sauf que là, la policière, elle m'a dit c'est un viol. Elle me dit, est-ce que vous êtes consciente que c'est un viol?
Ah oui, c'est elle qui vous a donc parlé de viol.
Je lui dis, mais dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est le père de ma fille. Je lui dis, mais non, c'est pas un viol. Je lui dis, il m'a forcé pendant ces deux fois. Elle me dit, vous étiez consentante? Je lui dis, non, j'étais pas consentante. Puisque je ne voulais pas, je lui disais, j'arrêtais pas de lui répéter que non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Et elle me dit donc, bah, écoutez, c'est un viol. Elle me dit, mari, pas mari, c'est un viol, ça s'appelle un viol. Donc il y a eu quand même une minute de silence pour que je puisse prendre conscience des choses, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit oui, en fait, c'est ça, quoi.
Très médiatisé, le procès s'est tenu aux assises, ce qui est très rare en cas de viol conjugal. Et fait encore plus rare, en public. Pour Samia, ce fut très éprouvant, mais c'est ce qu'elle voulait, que son exemple puisse servir à d'autres femmes. Son ex-conjoint violent a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, plus 3 autres années de mise à l'épreuve et une inscription à vie au fichier des délinquants sexuels. Maître Tomasini et Maître Bonaggiunta sont les deux avocates qui ont soutenu Samia tout au long de cette épreuve. Elles ont dédié leur cabinet à la cause des femmes victimes de violences intrafamiliales et défendent des femmes venant de toute la France. Pour les deux avocates, cette cause est un combat de tous les instants.
Je t'assure, moi, sincèrement, je croyais qu'elle était sur une table de législateur.
On dénonce souvent la non-formation, que ce soit des policiers, que ce soit des magistrats, que ce soit des psychologues, des experts qui sont désignés, parce que sans formation, on n'y arrive pas. Ouais, c'est-à-dire qu'on banalise les faits. Mm-hmm. On pense que ce sont effectivement des agressions dans le couple, un climat conjugal qui est parfois un peu excessif. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, on plaide à deux. C'est aussi une force. Parce que les jurys, il faut leur expliquer quand même. C'est très compliqué d'imaginer que cette femme a vécu quand même, non pas une seule nuit, mais plusieurs nuits difficiles. Leur expliquer pourquoi elle n'est pas partie avant. Et je leur explique vraiment qu'en psychiatrie, tout se comprend. Une femme qui est enfermée, qui est sous emprise, ne part pas, ne peut pas partir. C'est une prisonnière. À partir du moment où on comprend que c'est possible de vivre ça, même lorsqu'on est une femme normale, équilibrée, qui avait un métier, qui avait des responsabilités, à partir de là, on peut être beaucoup plus indulgente avec elle, parce qu'au départ, il est là le souci. C'est qu'on n'est pas indulgent avec les victimes.
Ouais. Justement, le fait que ce procès ait eu lieu devant une cour d'assises...
Alors, ça reste exceptionnel, puisque simple, il y a à peu près 75 000 plaintes pour viol chaque année. Et sur ces plaintes, il y a une plainte sur 3, en fait, qui émane de conjointes ou de concubines. Et malgré ce chiffre absolument incroyable, 4% seulement des affaires arrivent devant la cour d'assises. Donc ça reste effectivement très exceptionnel. Alors pourquoi ? Tout simplement, ça se passe dans un huis clos. Les violences conjugales, en tous les cas le viol, se passe en huis clos. Un conjoint, normalement, est là pour vous protéger.
Oui.
Hein ? En fait, on lui fait confiance.
Donc c'est encore plus grave.
C'est encore plus grave. C'est-à-dire que celui qui est là pour vous protéger, en qui on a une confiance absolue, qui est la plupart du temps le père de vos enfants, et qui arrive à vous dominer de cette manière, d'une manière bestiale et d'une manière patriarcale, c'est inadmissible. Mm-hmm. C'est inadmissible. Et malgré tout, les peines sont plus clémentes. Si elle avait été effectivement violée dans un parking, et c'est d'ailleurs ce que j'ai plaidé, par un illustre inconnu, il aurait pris davantage que 5 ans, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée.
L'ex-conjoint de Samia est aujourd'hui en prison. Sans l'intervention de la police, Samia aurait donc retiré sa plainte, une démarche malheureusement classique. Les femmes victimes de violences conjugales déposent des plaintes ou des mains courantes, puis souvent, par peur, les retirent. Elles font en moyenne 7 allers-retours avant de parvenir à s'extirper de cette situation de très grand danger. C'est aussi pour cela que maintenant, dans les gendarmeries et les commissariats, l'accueil des victimes est plus adapté. Des assistantes sociales spécialement formées aux problèmes reçoivent, conseillent ces femmes et les accompagnent en attendant qu'elles quittent définitivement leur bourreau. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation Mathias Helena. Diffusion Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.